France Info.
Bonjour Jordan Bardella.
Bonjour.
Le gouvernement a présenté hier sa réforme de l'assurance chômage avec d'un côté des pénalités pour les entreprises qui abusent des contrats les plus courts et de l'autre des conditions d'accès plus dures pour toucher les allocations. Est-ce que c'est une réforme équilibrée pour vous ?
Non, je crois que c'est le grand coup de rabot post-élection européenne sur lequel nous avions mis en garde. Alors il n'y a pas eu que la réforme de l'indemnité chômage, il y a aussi eu la réforme des retraites qui vise évidemment à serrer la vis. Je pense que cette réforme n'aura strictement aucun impact, pour être très franc. Le principe de dégressivité, il faut quand même être assez objectif, a déjà été testé dans les années 90 avec l'échec que l'on a connu. Et je vous rappelle que pendant la campagne électorale, M. Macron avait lui-même indiqué que ce débat sur la dégressivité était un faux débat en réalité. Donc je crois que ça n'aura strictement aucun impact. L'objectif derrière, c'est évidemment de rayer des listes un certain nombre de chômeurs parce qu'on n'arrive pas à faire baisser le chômage. Moi, j'entends un certain nombre de responsables. Oh, bah pardon, mais moi, j'ai été regarder les chiffres du chômage depuis l'élection d'Emmanuel Macron depuis 2 ans. C'est 60 000 demandeurs d'emploi supplémentaires, toutes catégories confondues. Donc, en réalité, ils n'arrivent pas à faire baisser.
Le taux de chômage a baissé depuis 2017. Bah, aujourd'hui, il est à 8,7%.
Mai 2017, avril 2019, j'ai été regarder sur Pôle emploi, toutes catégories confondues. C'est 60 000 demandeurs d'emploi.
Si on regarde l'indicateur,
vous regardez sur le site de Pôle emploi, j'ai vérifié
Jordan
hier soir.
Bardella, si on regarde l'indicateur le plus classique, il est en baisse, le chômage depuis
l'arrivée. Évidemment, si on règle tout le monde des statistiques, effectivement, ouais, à un moment donné, on pourra dire...
Si on regarde toutes les catégories de chômeurs comme vous le faites, ça compte aussi les chômeurs qui sont en formation.
Effectivement, si on regarde tous les mécanismes qui permettent de sortir un certain nombre de personnes du chômage, ça ne veut pas dire qu'on crée massivement de l'emploi dans le pays.
Si on regarde, par exemple, le Bureau international du travail, le BIT, qui ne dépend pas du gouvernement, le chômage baisse en France depuis 2 ans.
Étant parce que justement, si on regarde les chiffres de Pôle emploi, c'est encore une fois 60 000 demandeurs d'emploi. Donc, on n'arrive pas, si vous voulez, à faire baisser de manière significative le chômage dans notre pays. Moi, j'ai entendu le Premier ministre nous expliquer que l'objectif de cette réforme, c'était de créer plusieurs centaines de milliers d'emplois. S'ils veulent créer 200 000 emplois, ben moi, je leur propose de supprimer directement la directive du travail détaché et d'aller embaucher des salariés français plutôt que d'embaucher des salariés étrangers qui viennent d'Europe de l'Est et qui paient les cotisations sociales dans le pays d'origine.
L'objectif de la réforme de l'assurance chômage, c'est surtout de faire des économies pour ramener le système d'assurance chômage à l'équilibre.
Voilà, c'est pour faire des économies.
C'est pour combler le déficit de l'UNEDIC, de l'assurance chômage. Quelles sont vos propositions alternatives ?
C'est de relancer l'emploi. Voilà, c'est de relancer la machine économique. Et moi, je préfère cibler le chômage plutôt que de cibler le chômeur.
C'est ce que dit aussi le gouvernement.
C'est parce que fait le gouvernement en l'occurrence. Donc moi, je vous donne une mesure. Supprimer la directive du travail détaché.
Aujourd'hui.
Instaurer les protections nécessaires de nos entreprises face à la concurrence déloyale. Parce que en réalité, vous avez... aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises, un certain nombre de secteurs, par exemple, qui ont recours à des contrats courts. Je pense que le bonus-malus est tellement dérisoire qu'il ne changera rien en réalité.
Donc aujourd'hui, justement,
c'est parce que dans certains
point...
secteurs, on a besoin de contrats courts et qu'ils n'ont pas, encore une fois, de vision à long terme qui leur permettent d'avoir le carnet de commandes plein. Prends la question de l'hôtellerie, par exemple. Bah, c'est vrai que dans l'hôtellerie, en fonction de l'affluence, en fonction de la période, vous avez recours plutôt à des contrats courts qu'à des contrats longs.
Donc, il faut pas pénaliser. En l'occurrence, aujourd'hui, il y a à peu près plus de 80% d'embauches qui se font en CDD et non pas en CDI. Et parmi ces embauches en CDD, il y en a plus d'un tiers qui sont des CDD d'un jour.
Je pense qu'il ne faut pas s'attaquer au chômage plutôt que de s'attaquer aux chômeurs.
Il ne faut pas lutter contre la précarité du travail en taxant les entreprises,
notamment dans l'hôtellerie. C'est avec les réformes d'Emmanuel Macron qu'on va vers la précarisation. Avec la loi sur le code du travail. C'est avec ce type de loi qui a pour but de jeter le discrédit sur l'ensemble des chômeurs.
Vous êtes hostile à la taxation. C'est juste pour bien comprendre. Vous êtes hostile à la taxation des entreprises qui abusent des contrats courts, notamment qui recourent massivement à ces contrats d'un jour.
Mais encore une fois, ce dispositif ne va strictement rien changer parce qu'aujourd'hui, les cotisations patronales, c'est à peu près 4,5%. Le bonus étant à quasiment un point de plus et le malus un point de moins.
Aussi.
Donc, ça ne changera strictement rien. J'ai entendu hier sur votre antenne, sur France Télévisions, le témoignage d'un hôtelier qui nous dit ça ne changera rien parce que moi, je n'ai pas besoin, en l'occurrence, dans mon secteur d'activité, de recourir à des contrats longs. Donc, je dis ciblons le chômage plutôt que de jeter le discrédit sur les chômeurs qui a pour but, effectivement, de rayer d'un certain nombre de chômeurs des listes, évidemment, dans un an avant les élections municipales.
Dernier point sur cette réforme, l'instauration d'un régime pour les travailleurs indépendants, en l'occurrence d'une indemnisation de 800 euros pendant 6 mois. Ça, est-ce que vous êtes favorable à l'instauration de ce régime pour les travailleurs indépendants ?
Oui, il peut y avoir des. Je veux dire,
il y a des choses qui sont.
Il y a des choses qui peuvent être. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes, mais si vous voulez, l'esprit général de la loi. Et encore une fois, Emmanuel Macron le disait pendant la campagne présidentielle, ce débat sur la dégressivité, ça jette le discrédit sur les chômeurs. Et je pense que c'est un faux débat. Ça a été
sur
testé
les chômeurs qui
encore une fois.
Plus de 4 500 euros par mois.
Et vous avez raison. Ça a été testé dans les années 90, ça n'a pas fonctionné. On va s'attaquer aux cadres qui sont quand même les plus gros contributeurs de l'assurance chômage, à près de 45%, alors qu'ils en ont ils en sont très peu bénéficiaires. Donc j'ai peur que ce soit l'arbre qui cache la forêt et qu'en réalité cette réforme ne change strictement rien, sinon d'aller rayer des listes un certain nombre de personnes. Mais si vous voulez, compte tenu de la situation économique de notre pays qui a 6 millions de chômeurs et 10 millions de pauvres, je préfère effectivement qu'on s'attaque aux causes du chômage de masse, que sont effectivement la fiscalité abusive et les normes délirantes sur nos TPE, PME, et évidemment la concurrence déloyale qui mine le carnet de commandes d'un certain nombre de nos boîtes.
Un mot, Jordan Bardella, de l'actualité cette nuit aux États-Unis, de la déclaration de candidature de Donald Trump, qui est donc officiellement candidat pour rempiler à la Maison-Blanche. Si vous étiez américain, ce serait votre candidat.
On m'a déjà posé cette question.
Ah ben, je vous la repose.
Alors, je ne vous répondrai pas, d'abord parce que je ne suis pas américain, et deuxièmement parce que vous savez que le vote est secret. Maintenant, il faut être assez objectif.
Le vote est secret, ça ne vous empêche pas, on connaît les affinités entre le Rassemblement National et Matteo Salvini.
Oui, évidemment. Et pourtant, oui, évidemment. Et puis vous savez très bien pour qui j'ai voté aux élections européennes.
Mais... Oui, ça je me doute bien, vous étiez tête de liste, mais aux États-Unis.
Mais si vous voulez, je pense que Donald Trump, lorsqu'il a été élu, on nous a annoncé que ça serait la catastrophe économique. Moi, ce que je regarde aujourd'hui, c'est que après quelques années de mandat, son bilan est très bon. Je veux dire, il crée tellement...
À quel point de vue son bilan est très bon?
Du point de vue économique. Il crée tellement d'emplois aux États-Unis qu'il y a plus de main d'œuvre pour les occuper. Il a mis en place une politique protectionniste pour défendre les intérêts américains qui font que les autres pays sont obligés de s'adapter et qu'ils exigent désormais, lorsqu'il y a des produits qui viennent du Mexique, que les produits qui viennent du Mexique soient faits avec un salaire supérieur, qu'il augmente les salaires au Mexique. Donc, ses résultats économiques sont assez bons. Il a baissé la fiscalité, notamment sur les ménages, sur les chefs d'entreprise, et je pense qu'on pourrait effectivement s'en inspirer davantage en France. Et puis surtout, il a redonné une forme de fierté aux États-Unis. Moi, je dis que toutes les grandes puissances qui marchent dans la mondialisation, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Russie, que ce soit le Japon, tous ces pays réussissent parce qu'ils sont des nations fières d'elles-mêmes, et il faudrait peut-être qu'on s'en inspire et qu'on soit capable nous aussi de baisser les impôts, de baisser la fiscalité et de faire du protectionnisme.
Sur le plan international, vous vantiez son bilan. Sur le plan international, c'est un facteur de paix et d'harmonie, Donald Trump, à vos yeux?
Si vous voulez, lorsqu'on avait le choix entre Trump et Clinton, on a dit qu'il portait une vision beaucoup moins belliqueuse qu'Hillary Clinton. Maintenant, les États-Unis défendent leurs intérêts. Il faut qu'on soit capable, nous, de défendre les nôtres. Mais si vous voulez, l'Union européenne, aujourd'hui, c'est l'impuissance collective. Et on est capable de dialoguer.
Le retrait de l'accord avec l'Iran ou le retrait sur un autre sujet de l'accord de Paris sur le changement climatique, tout ça ne participe pas de la construction d'une harmonie internationale.
Nous avions émis des réserves sur la sortie des États-Unis de l'accord du climat. Mais encore une fois, Donald Trump défend les intérêts américains. Il fait ce qui semble être bon pour
son pays.
Défendre
les Américains, ça peut aussi être lutter contre le réchauffement climatique.
Qu'est-ce que vous entendez?
Est-ce que la lutte contre le réchauffement climatique ne servirait pas aussi les intérêts américains?
Mais le réchauffement climatique est un phénomène mondial.
Qui concerne aussi les
États-Unis. Nous, si vous voulez, on a émis des réserves sur sa signature pour la France, parce qu'à partir du moment où toutes les grandes puissances, qui sont les grands pollueurs, si vous voulez, de la planète, se retirent de cet accord, alors l'accord n'a plus aucun sens. Maintenant, Trump défend les intérêts américains. Voilà, il faut qu'on soit capable de faire la même chose, et pas, si vous voulez, comme le fait Emmanuel Macron, d'aller brader nos industries, nos patrimoines aux Américains. Je parle bien sûr de ce qui s'est passé avec General Electric, parce que on a appris le lendemain, parce que moi on parle beaucoup effectivement d'aller lutter contre la fraude sur la question du chômage, mais lorsqu'on apprend le lendemain des élections européennes, le lendemain, pas la veille, le lendemain que on s'apprête à supprimer 1000 emplois dans l'industrie et auprès de General Electric, alors que General Electric
qui a été vendu,
dont la branche énergie d'Alstom a été vendue aux Américains de General Electric, et je pense qu'il porte une responsabilité lourde dans cette affaire.
Jordan Bardella, le nouveau vice-président du Rassemblement National et l'invité de France Info jusqu'à 9h. On va s'interrompre quelques instants, si vous le voulez bien, pour le résumé de l'actualité à 8h41 avec David Doba.
Il sera resté 16 heures avec les enquêteurs avant finalement de ressortir totalement libre de sa garde à vue. Aucune charge retenue, en tout cas à ce stade, contre Michel Platini. Il était entendu dans le cadre de l'enquête sur les conditions d'attribution du Mondial 2022 au Qatar. L'ancien numéro 2 de la FIFA se dit serein. Parole est à la défense au procès Balkany. Dernières heures d'audience, le maire de Levallois-Perret et sa femme sont soupçonnés d'avoir caché entre 2007 et 2014 13 millions d'euros d'avoir au fisc. L'équipe d'investigation international sur le crash du vol MH17 abattu par un missile, c'était en 2014 au-dessus de l'Ukraine, devrait rendre public dans la journée les noms des responsables présumés. L'année dernière, les enquêteurs avaient établi un lien entre l'arme utilisée et une brigade anti-aérienne russe basée à Koursk. Et puis 16 tonnes de marchandises, une valeur estimée à plus $1 milliard. Les autorités américaines annoncent avoir effectué l'une des plus grosses saisies de drogue de l'histoire des États-Unis. Elle s'est déroulée à Philadelphie. La cocaïne se trouvait dans un cargo en partance pour l'Europe.
France Info. Jordan Bardella, Marine Le Pen a tendu la main aux élus, les Républicains, en vue des municipales du mois de mars prochain. Est-ce que l'avenir de votre parti est à droite ?
Bien au-delà. Je pense que le clivage aujourd'hui a évidemment évolué. Ce clivage entre la gauche et la droite m'apparaît assez obsolète aujourd'hui. On n'est pas face à un camp, en l'occurrence face à un candidat, Emmanuel Macron, qui a fait l'union de la gauche.
Vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron là-dessus, en fait?
Je suis assez lucide. C'est-à-dire qu'on a en face de nous un camp politique qui a réuni à la fois des gens qui se sentaient de droite et des gens qui se sentaient de gauche. Et je pense qu'il faut qu'on soit capable, nous, de faire la même chose.
Aujourd'hui, le RN doit devenir un parti et de droite et de gauche.
Bon, c'est ce qu'on a toujours été, et ni de droite ni de gauche, et à la fois de droite et de gauche, et on a toujours
voulu plus à droite que de gauche,
réunir à la fois le meilleur de la droite et le meilleur de la gauche. Mais je crois que le clivage
aujourd'hui,
il oppose les patriotes aux mondialistes. Voilà, il oppose ceux qui veulent continuer de transférer nos pouvoirs à l'Union européenne, à des grands ensembles régionaux, ceux qui veulent continuer d'avoir une immigration massive dans notre pays, ceux qui veulent continuer ce libre-échange total, et ceux qui, comme nous, défendent la nation, défendent le bon sens, défendent la paix fiscale et défendent l'arrêt de l'immigration. C'est cela le choix politique aujourd'hui qui se pose. Et compte tenu effectivement de l'éclatement aujourd'hui des Républicains, je pense qu'on a aussi vocation à parler à toute une partie de cet électorat populaire de droite qui a été laissé un petit peu orphelin par la débâcle de ce parti lors des élections européennes.
Vous venez de citer l'immigration, ce sera un thème de campagne pour les municipales.
Mais c'est un thème, c'est un thème majeur, c'est un thème dont on parle à chaque campagne électorale.
Les candidats du RN auront des mesures précises à présenter sur l'immigration au niveau local.
Bah, vous savez très bien que l'immigration ne se gère pas au niveau local. Par contre, au niveau local, on va parler de sécurité. Et je crois que personne ne nie aujourd'hui le lien qui existe entre l'immigration et notamment l'immigration clandestine et l'insécurité. Vous avez vu qu'il y a quelques jours, d'ailleurs, dans la Drôme, un Algérien qui était sous le coup d'une expulsion, d'une obligation de quitter le territoire, a été interpellé pour avoir agressé sexuellement une femme qui avait un bébé. Il a ensuite été relâché. Donc, ce laxisme, si vous voulez, migratoire et ce laxisme sécuritaire, il a des conséquences très concrètes dans nos villes et dans nos villages. Et puis, je crois que nous aurons évidemment à parler de cette répartition des migrants qui est notamment imposée par le Parlement européen, par cette répartition par quota dans les villes et dans les villages français. Tout cela a une influence très concrète sur la vie des Français.
Combien la France a accueilli de migrants sur ordre, dites-vous, de l'Europe, ces dernières années?
Plusieurs dizaines de milliers, puisque nous n'avons pas de frontières, en réalité. Donc, nous subissons, effectivement, une immigration légale, nous subissons une immigration clandestine. Rien que dans mon département de la Seine-Saint-Denis, un rapport parlementaire qui nous expliquait qu'on pouvait avoir jusqu'à 400 000 clandestins sur une population d'un million 500 000 habitants.
Je trouve que c'est le département de France qui compte le plus d'immigrés, la Seine-Saint-Denis.
Oui, d'accord, à tel point qu'un certain nombre de nos compatriotes en partent parce qu'ils ne se sentent plus chez eux dans ce département et qu'ils ne se sentent plus en sécurité dans ce département. Maintenant, il y a une réalité, c'est que on nous explique que le flux de migrants s'est tari. Moi, j'ai regardé les chiffres de l'OFPRA qui nous ont été communiqués il y a quelques jours et qui nous expliquent qu'on n'a jamais eu autant de demandes d'asile dans notre pays.
Jordan Bardella, celui de demandes d'asile, mais il y a énormément de refus de ces demandes d'asile,
comme
vous le savez.
Puisque la Cour des comptes nous dit elle-même qu'il y a seulement 5% des déboutés qui sont reconduits. Donc c'est faux.
L'Europe n'impose pas aujourd'hui à la France d'accueillir des migrants dans ses villes et ses villages. Celui qu'il dénonce, justement, c'est votre ami Matteo Salvini, qui reproche à l'Europe de ne pas le faire.
Oui. Et alors?
Matteo Salvini reproche à la France de ne pas accueillir des quotas de migrants qui sont aujourd'hui présents en Italie.
Mais c'est absolument faux. Matteo Salvini fait exactement le même constat que nous, c'est que aujourd'hui
les migrants qui sont en Italie, ils souhaiteraient par exemple que la frontière entre
les migrants italiens soient raccompagnés dans leur pays d'origine. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs parce que il critiquait ceux qui donnent des leçons sur l'accueil des migrants, mais comme Emmanuel Macron d'ailleurs, qui nous a dit je veux pas accueillir l'Aquarius sur les côtes parce que c'est un peu mauvais électoralement, par contre je veux bien accueillir les migrants qui passent par l'Espagne. Donc Matteo Salvini, il est d'accord avec nous, il faut mettre fin à l'immigration aujourd'hui, et si j'en crois effectivement les chiffres de l'Italie qui accueille 700 000 migrants sur ses côtes depuis 2013, il a réussi à faire baisser de 95% le nombre de débarquements sur ses côtes, et ça fait aussi baisser de 50% le nombre de morts
dans la Méditerranée bien avant l'arrivée de
Absolument
Salvini.
Pas. Absolument pas, de manière dérisoire. Il a mis un principe très clair, zéro débarquement sur les côtes italiennes, et il fait également procès aux ONG qui se font bien souvent les complices des trafiquants d'êtres humains en allant chercher des bateaux parfois à 20 km des côtes libyennes pour ensuite les ramener sur les côtes européennes. La réalité, c'est que compte tenu de la situation économique de notre pays aujourd'hui, compte tenu des tensions communautaristes qu'il existe dans un certain nombre de quartiers, on ne peut plus accueillir une immigration supplémentaire, et je ne crois pas effectivement que le gouvernement l'ait compris.
Immigration zéro.
Quasi zéro. Nous, on était favorable pendant la campagne présidentielle à
plus
un solde
d'asile,
de 10 000 entrées
plus
par
droit
an.
D'asile.
Non, mais je veux que le droit d'asile soit accordé aux gens qui sont réellement en situation de d'insécurité dans leur pays, qui fuient réellement une situation de tension. Mais il faut revenir à ce qu'était le droit d'asile initialement. Et c'est pour ça qu'on veut que le droit d'asile soit traité dans les pays d'origine. Parce qu'aujourd'hui, ça a totalement été dévoyé.
Plus d'étudiants étrangers en France non plus.
Vous avez des gens qui viennent dans notre pays, qui font une demande d'asile. La demande d'asile est rejetée et dans 95% des cas, ils ne sont pas expulsés. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. Donc, il faut que le droit d'asile soit traité dans les pays d'origine et il faut la plus grande fermeté avec l'immigration clandestine. Et puis, il faut couper les pompes aspirantes. Il faut couper toutes les aides sociales qui font que des gens viennent dans notre pays parce qu'ils considèrent que notre pays est attractif. La France n'est pas un guichet social et il faut savoir remettre un peu d'ordre là-dessus.
Sur cette question de l'immigration, le gouvernement évoque un débat annuel au Parlement et l'hypothèse, c'est le Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, qui en a parlé, l'hypothèse de quotas, d'instauration de quotas.
Mais ça, c'est de la com. Ça fait des années qu'on nous parle de quotas. Le nombre, si vous voulez,
vous y seriez favorable.
Mais le nombre de visas qu'accorde l'État français chaque année à des personnes étrangères qui viennent dans notre pays est déjà une forme de quota en réalité. Donc,
il n'y a pas d'objectif annuel fixé aujourd'hui.
Non, mais d'accord. Mais à partir du moment où l'État accorde 265 000 titres de séjour chaque année,
il y a personne qui dans un bureau dit on s'arrêtera.
Quota. Moi, je veux un quota. C'est le quota zéro, quasiment zéro. C'est de dire aujourd'hui qu'on ne peut plus accueillir une immigration supplémentaire. Et dans ce débat, si vous voulez, qui consiste à débattre de l'immigration qu'on veut organiser chaque année au Parlement, mais à évincer de ce débat la question de l'asile, la question du regroupement familial et qui a été élargie d'ailleurs, et la question des étudiants, on va débattre de quoi ? De gens qui viennent bosser dans notre pays, ça n'a absolument aucun sens. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'on mette fin à l'immigration dans notre pays, et c'est ce que veulent une majorité de Français. Ils en ont assez du bavardage sur cette question. Ils veulent qu'on réserve les moyens de l'État à eux d'abord. Voilà.
On va s'interrompre quelques instants, Jordan Bardella, le temps de retrouver David Doba pour le rappel de l'actualité. Et on va poursuivre notamment sur les questions européennes et les affaires en ce moment au Rassemblement National. 9h10, David Doba.
Devant 20 000 personnes réunies à Orlando, Donald Trump a officiellement lancé sa campagne pour 2020. Pas de changement, ni sur le fond, ni sur la forme. Il accuse les démocrates de vouloir détruire le rêve américain. Il promet également une économie au mieux de sa forme, la fin du sida et du cancer, sans oublier l'envoi d'Américains sur Mars. Aucune charge n'est retenue contre lui. Peu avant 1h du matin, Michel Platini est ressorti libre de sa garde à vue. Il était entendu à Nanterre dans le cadre de l'enquête sur les conditions d'attribution du mondial de 2022 qui se passera, vous le savez, au Qatar. Selon un premier bilan dressé par France Bleu Drôme, 5 jours après les chutes de grêle et les inondations, 28 communes sont concernées par l'état de catastrophe naturelle. Près de 20 000 noyers d'appellation AOC ont été abattus. À Romans-sur-Isère, une école primaire et une école maternelle resteront fermées jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et puis on en vient à cette nouvelle tuerie dans des villages d'Ogon qui a fait 38 morts dans le centre du Mali. Il y a quelques jours, le président Ibrahim Boubacar Keïta récusait toute notion de conflit interethnique. Pourtant, depuis 2015 et l'apparition d'un groupe djihadiste, les affrontements entre ethnies se multiplient dans la région.
Toujours avec le député européen du Rassemblement national, Jordan Bardella, Renaud Dely.
Jordan Bardella, pendant la campagne des élections européennes, Marine Le Pen promettait de constituer au Parlement européen une majorité, je la cite, ou à minima une minorité de blocage. Vous aviez l'espoir de former le plus grand groupe au Parlement européen et de réunir l'ensemble des élus nationalistes d'Europe. Finalement, vous n'êtes que le cinquième groupe en progression, certes avec davantage d'élus qu'il y a cinq ans, mais vous n'êtes finalement que le cinquième groupe du Parlement européen. Pourquoi avez-vous échoué ?
C'est vrai qu'on est le groupe qui connaît la plus forte poussée au sein de ce Parlement européen. Si vous voulez, on a dit pendant la campagne, et d'ailleurs les sondeurs nous le disaient, on pourrait devenir le troisième groupe au sein de ce Parlement européen. Nous serons le quatrième à l'issue du Brexit, devant les Verts avec 76 députés.
Et pour l'instant,
maintenant, ce qui est vrai, c'est que il y a ce groupe souverainiste qu'on a réussi à constituer avec des partis qui gouvernent, les Estoniens, les Autrichiens qui ont été au gouvernement, qui n'y sont plus, mais qui ont l'expérience du gouvernement, avec les Italiens de Matteo Salvini. Et puis il y a un deuxième groupe souverainiste qui est le groupe ECR, mais je crois que ce qui compte, c'est la politique qu'on va défendre. Et c'est vrai que sur des questions aussi essentielles que les quotas de migrants, par exemple, que sur les traités de libre-échange, il est fort probable que l'ensemble des partis souverainistes votent la même chose. Et d'ailleurs, même Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, a indiqué que les souverainistes que nous sommes allaient avoir un impact majeur sur la politique de l'Union européenne.
Évidemment. Et pourquoi aujourd'hui, Jordan Bardella, certains partis que vous qualifiez de souverainistes, comme par exemple les Polonais du Parti Droit et Justice, ou Viktor Orban, le Premier ministre hongrois et ses élus, refusent, eux, la main que vous leur tendiez ? Pourquoi est-ce que ils jugent encore aujourd'hui le Rassemblement National comme infréquentable.
Mais vous savez, la politique, c'est le temps long. Et nous avons réussi déjà à convaincre un certain nombre de mouvements politiques qui n'étaient pas au sein de notre groupe.
Qu'est-ce qu'il faudra pour que vous soyez fréquentable? Vous avez changé le président en présidente, le nom du parti. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre?
Le Parlement européen est dirigé depuis près de 60 ans par des européistes. Voilà, par des gens qui considèrent que l'avenir du continent européen passera par un affaiblissement des nations. Moi, je me réjouis de voir des souverainistes, des partis du bon sens arriver massivement au Parlement européen, encore davantage que ça ne l'était. Mais nous avons des discussions, même si nous ne sommes pas dans le même groupe, nous voterons probablement la même chose. Vous savez, ces histoires de groupe, ces histoires de cuisine interne au Parlement européen, ce qui compte, c'est les textes que nous allons défendre,
c'est
les votes
que nous aurons. S'associer avec
et il est probable que sur les grands sujets, nous voterons la même chose. Mais il y a des discussions. Viktor Orban n'a jamais été dans le même groupe que nous.
Ça fait des mois que vous lui tendez la main, Viktor Orban et Orban, ils ne veulent pas.
Mais bien sûr, mais nous lui tendons la main. Nous avons dit que sur la simple question des migrants, il avait eu de bonnes mesures. Il a mis fin au quota de migrants à l'arrivée de migrants clandestins en Hongrie parce que c'était la volonté du peuple hongrois, dont acte. Mais je crois que nous sommes aujourd'hui une force politique incontournable, que nous sommes en train de construire en France, mais aussi au niveau européen, une alternance. Et je considère que nous sommes aujourd'hui l'alternance démocratique à Emmanuel Macron. Et j'ai la conviction que nous allons arriver au pouvoir, que notre génération sera amenée à gouverner. Et on fera le choix, effectivement, de pendant ces élections municipales, d'investir des têtes de liste dans le maximum de villes, de tendre la main à des élus issus des Républicains, à des élus divers droite, mais même au-delà d'ailleurs, qui partagent notre projet, qui partagent cette vision du bon sens qu'on a de la politique et qui veulent avec nous changer le quotidien des Français.
Jordan Bardella, une dizaine de membres de votre parti sont mis en examen pour des soupçons d'emploi fictif d'assistants parlementaires au Parlement européen. Le journal Le Monde a dévoilé il y a quelques jours, le week-end dernier, des messages envoyés entre certains assistants parlementaires et des membres, parfois de la direction du parti. Je voudrais vous en lire un seul, un message signé du député, de l'eurodéputé FN Jean-Luc Schaffhauser, qui s'inquiète auprès du trésorier du parti du système qui a été mis en place. Je le cite, ouvrez les guillemets. Ce que Marine nous demande équivaut à signer pour des emplois fictifs. C'est le député qui est responsable. Je comprends les raisons de Marine, mais on va se faire allumer car on regardera, c'est sûr, nos utilisations à la loupe. Réponse du trésorier à ce message. Je crois bien que Marine sait tout cela.
Oui, non, mais là, vous sortez des phrases, vous sortez trois phrases.
J'en ai d'autres si vous voulez.
Non, mais vous sortez, oui, d'accord, mais vous allez me sortir quelques phrases d'une interview.
Non.
D'une interview, pardon, d'un interrogatoire ou d'un.
Non, alors je vais vous en donner une autre si vous le permettez. Jordan Bardella, une autre simplement.
On peut jouer
l'ancien assistant,
quiz,
c'est pas un jeu. Enfin, l'ancien assistant parlementaire de Florian Philippot, écrit par SMS. Oui. Vous voyez, texto. Je suis dans la merde, je n'ai aucune preuve de travail, je ne rédige aucune note européenne pour Flo. On peut supposer qu'il s'agit de Florian Philippot.
D'accord.
Là, c'est moi qui l'ajoute. Je n'ai pas accès à ses mails européen.
Bon, monsieur, vous pouvez sortir des phrases de rapport de justice, autant de phrases.
Il s'agit des éléments dont disposent les enquêteurs aujourd'hui.
Oui, en violation d'ailleurs du secret de l'instruction. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a absolument aucune condamnation dans cette affaire, qu'il y a certes des mises en examen, mais je vous rappelle qu'il y a ce qu'on appelle en France la présomption d'innocence, qu'on nous ressort cette affaire des assistants parlementaires à chaque fois, à chaque élection. On l'a fait aux élections régionales.
Parce qu'il s'agit de 7 millions d'euros qui ont peut-être été détournés.
Aux élections. Non, mais ça, ce sont les réclamations du Parlement européen, ce ne sont pas les réclamations de la justice française, encore une fois. Moi, je m'étonne, si vous voulez. Non, mais je m'étonne de voir que Monsieur Mélenchon subit les mêmes attaques de la part du Parlement européen. Le MoDem subit les mêmes attaques du Parlement européen.
C'est bon signe, c'est que la justice fonctionne pour tout le monde. En tout cas, qu'elle enquête pour tout le monde.
C'est que vous avez aujourd'hui une séparation des pouvoirs. Et moi, je considère que en matière de séparation des pouvoirs, la justice n'a pas à s'immiscer dans les affaires d'un député. Voilà. Et à partir du moment où des juges se mettent à faire de la politique et se mettent à s'immiscer dans les affaires d'un parlementaire, je trouve que c'est assez grave.
On parle d'argent public. Si de l'argent du Parlement européen a été utilisé pour financer les activités d'un parti politique
à Paris... Mais monsieur, quelles activités? On nous reproche de faire de la politique. Oui, nos collaborateurs, oui, nos députés ont aussi des responsabilités dans l'appareil. Moi, si demain j'ai quelqu'un qui appelle un de mes collaborateurs et qui dit « je voudrais parler à Jordan Bardella », il dit « je voudrais parler à Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement National ou député européen ». Donc, vous voyez que cette affaire n'a pas de sens et qu'en réalité, oui, nos collaborateurs font aussi de la
certains
politique.
Certains de ses assistants, mais six mois après leur nomination, n'avaient jamais mis les pieds au Parlement.
Pardon, mais parce qu'ils étaient locaux, à Bruxelles, et que vous n'avez pas les mêmes obligations lorsque vous travaillez au Parlement européen en accrédité que lorsque vous êtes assistant local.
Vous avez les mains propres dans cette affaire,
vous
en êtes sûr?
Moi, j'ai les mains propres dans cette affaire, il n'y a pas de souci. Et encore une fois, cette affaire est ressortie systématiquement quelques jours avant l'élection et ça n'a aucun impact.
En l'occurrence, elle est sortie après, Jordan Bardella, il faut être précis sur un point, elle est sortie après les élections européennes. Si elle était sortie
avant, les réclamations faites par le Parlement européen à Marine Le Pen sont sorties le jour. la veille le 23 mai, de la fin de la campagne qui s'est terminée le 24 mai
sont sortis le week-end dernier.
Oui, non mais d'accord, mais cette affaire, si vous voulez, oui, mais cette affaire nous est non mais je veux bien que vous nous posiez la question à chaque interview, mais je vous répondrai la même chose à chaque interview en l'occurrence. Il y a aucune condamnation dans cette affaire et on nous ressort cette affaire si vous voulez à chaque fois 15 jours avant les élections, à chaque fois qu'on est mis en tête d'ailleurs, et ça change strictement rien.
Vous avez raison, il y a aucune condamnation, il y a une dizaine de mises en examen pour abus de confiance, détournement de fonds publics, mais alors qu'il n'y a aucune condamnation. Mais vous nous expliquez un instant que donc il peut arriver du fait du cumul des fonctions et des responsabilités qu'en fait des assistants parlementaires au Parlement européen travaillent aussi, puisqu'ils font de la politique, c'est votre expression, pour des élus en France, bien sûr.
Non, je vous dis que le collaborateur est à la disposition de son parlementaire, donc il organise ses réunions.
Que celui-ci fasse de la politique au Parlement européen ou en France.
Mais bien sûr, mais vous avez parfaitement le droit. De la même manière qu'en tant que collaborateur, vous avez parfaitement le droit, à partir du moment où vous en informez votre député, d'être candidat à une élection.
Même si cet assistant est donc rétribué, lui, sur des fonds du Parlement européen.
Non, mais il est salarié de son député. Il est salarié de son député. Il a le droit de faire de la politique aussi.
L'origine des fonds.
Mais quelle origine des fonds ?
Pour être très clair, vous continuez, ce système continue aujourd'hui, puisque vous
dites qu'on a absolument rien à se reprocher. Nos collaborateurs travaillent pour leurs députés. Voilà. Et les collaborateurs qui vont être embauchés dans les prochains jours pour les nouveaux 22 eurodéputés du Rassemblement National travailleront pour leurs députés, mais peuvent faire aussi de la politique à côté. Ils peuvent aller coller des affiches, ils peuvent aller distribuer des tracts, évidemment sur des heures qui ne sont pas leurs heures de travail, et ils peuvent faire de la politique en France pour leurs députés, encore une fois.
Merci Jordan Bardella.
Merci, c'est moi qui vous remercie. Bonne journée.
Merci d'avoir accepté ce matin l'invitation de France Info.